Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons parler des rapports entre la France et l'Orient. On pense bien évidemment à la Méditerranée, au Levant, question des croisades qui a longtemps occupé la politique française, l'époque des mandats, la Syrie, le Liban, l'expédition de Napoléon Bonaparte, et ce rêve fascinant, il faut bien le dire, du rapport entre la France et l'Orient. Et pour évoquer ces questions, je reçois cette semaine Jean-François Figeac, agrégé d'histoire, docteur en histoire, qui a consacré sa thèse à la question d'Orient. L'intitulé exact était « La question d'Orient dans l'opinion publique française, 1789-1861 », qui est aujourd'hui chargé de cours à Sciences Po Aix et qui vient de publier aux éditions Passé Composé un passionnant « La France et l'Orient » de Louis XV à Emmanuel Macron. Jean-François Figeac, bonjour.
Bonjour, Jean-Baptiste Noé.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Alors, nous allons évoquer dans cette émission la première période. On va faire de manière chronologique, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple en histoire. Donc, nous aborderons le XXe siècle dans l'émission future, mais on va d'abord partir de Louis XV. Et première question, pourquoi avoir commencé avec Louis XV? Pourquoi avoir débuté votre sujet à cette limite chronologique-là? Alors, évidemment, il faut trouver un point de départ, parce qu'on pouvait remonter à l'époque médiévale. Mais qu'est-ce que Louis XV a de particulier, par rapport à Louis XIV, par exemple, qui fait qu'il y a une spécificité du sujet de ces rapports entre la France et l'Orient?
Alors, tout d'abord, merci hein, de m'avoir invité. Et comme vous le dites, vous le rappelez, hein, il y a, avant Louis XV, hein, une politique française en Orient. On peut la dater assez facilement. Durant le règne de François Ier, hein, qu'il y a une première alliance entre la France et la Sublime Porte, alliance de revers face à Charles Quint. Mais ce que j'ai constaté au cours de mes recherches, c'est qu'il y a une mutation de cette politique à partir du milieu du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la politique des rois de France en Orient n'était pas une politique pleinement cohérente. Auparavant, notamment sous Louis XIV, il renouvelle les capitulations en 1673, les capitulations qui sont donc ces actes concédés par le sultan ottoman au roi de France qui permettent des privilèges commerciaux aux commerçants, aux marchands français présents au Levant et qui permettent également une protection des lieux saints et des chrétiens. Donc Louis XIV renouvelle ses capitulations, mais dans le même temps Louis XIV joue beaucoup sur la rhétorique de la croisade. Ne serait-ce que pour légitimer son pouvoir, mais ça débouche également sur quelques événements concrets. Par exemple, en 1685, il planifie hein, une mission qui a pour but de se renseigner sur l'état de défense des côtes ottomanes, dans le but éventuellement de prévoir une expédition militaire. Tout cela change à partir de Louis XV pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les capitulations sont renouvelées une nouvelle fois en 1740, mais ce renouvellement, cette fois-ci, se veut définitif. C'est-à-dire que l'alliance entre Louis XV et entre le Royaume de France et le Sultan sera désormais perpétuelle. Un autre moment important qui explique ce basculement sous Louis XV, c'est au moment de l'ambassade de Vergennes. Vergennes qui devient ambassadeur à Constantinople en 1755, hein, qui reste plus de 10 ans, et qui devient ensuite, par la suite, hein, sous Louis XVI, hein, ministre des Affaires étrangères. Et Louis XVI est le premier a réellement pensé l'alliance ottomane. Et pourquoi, selon Vergennes, il doit y avoir une alliance ottomane, c'est en raison des menaces dont serait l'objet l'Empire ottoman, qui remettrait en cause l'équilibre européen. Menaces qui viennent essentiellement de la Russie, puisque la Russie, depuis la fin du XVIIe siècle, cherche à avoir alors d'abord un débouché sur la mer Noire, hein, en prenant dès la fin du XVIIe siècle la forteresse d'Azov, puis cherche à descendre le long de cette mer Noire pour aller jusqu'à Constantinople. Donc face à cet impérialisme russe, Vergennes cherche à ce que l'Empire ottoman demeure tout en se réformant. Le règne, c'est également un moment important dans l'imprégnation de politique de l'Orient dans la société, notamment dans l'élite française. Alors, l'imprégnation dans l'élite française, elle existait déjà sous Louis XIV. On peut penser à la mode des turqueries, notamment dans la musique. On peut penser à la marche pour la cérémonie des Turcs de Lully. Mais à partir du XVIIIe siècle, et notamment sous Louis XV, sous l'influence de la philosophie des Lumières, de Montesquieu, on peut penser aux lettres persanes, de Voltaire et sa pièce Mahomet, on s'aperçoit que des concepts créés par les philosophes des Lumières permettent de décrire l'Orient. Alors, ces concepts n'ont pas forcément de prise avec la réalité, mais ils sont des cadres d'analyse qui structurent la société. On peut penser au concept de despotisme pour décrire le pouvoir turc, ou encore au concept de fanatisme pour décrire l'emprise de la religion musulmane sur les sociétés orientales.
Alors, on va revenir sur les concepts. J'ai plein de questions à vous poser sur le sujet. Mais tout d'abord, là, je voudrais d'abord revenir sur la question ottomane. Vous l'avez dit, alliance des Français avec les Ottomans, si je puis me permettre de cette manière-là. On dirait que c'est pas très catholique et c'est pas très chrétien non plus. On sait que ça a été reproché par nos voisins européens, ça a été reproché à la France. Alors, il y a eu le précédent de Lépante, mais la France qui s'allie avec une grande puissance, puissance musulmane, est-ce que dans le monde chrétien, ça n'a pas été vu comme une trahison? Est-ce qu'il y a eu débat autour de cette alliance?
Oui, alors c'est un débat qui est ancien. Vous parliez de Lépante, mais bon, dès François Ier, il y a ce débat-là. Et très clairement, l'alliance que passe François Ier avec le sultan ottoman en 1535 nourrit un certain nombre d'écrits hostiles au roi de France, d'autant plus qu'il y a des opérations militaires communes sous François Ier. On peut penser au siège de Nice en 1541. Alors, c'est cette alliance au XVIIIe siècle entraîne moins d'opposition, on peut le dire, de la part des autres puissances, pour la bonne raison que les capitulations qui ont été signées entre le roi de France et le sultan peuvent concerner également d'autres puissances européennes. À partir du XVIIe siècle, les Britanniques, les Hollandais, les Espagnols ensuite vont signer tour à tour des capitulations. Il apparaît ici normal discuter avec le sultan ottoman. Là où la critique de la politique orientale des rois de France va peut-être se placer plus sur cet angle de la religion, cet angle chrétien, c'est en Russie. Parce que la Russie va justement, dans cette perspective de s'emparer des détroits du Bosphore et des Dardanelles, va s'ériger, le tsar, et puis notamment ensuite Catherine II à la fin du XVIIIe siècle, va s'ériger comme la meilleure gardienne du christianisme et de ce qu'elle espère être, in fine, une restauration de l'Empire byzantin.
Alors, sur la question orientale, je vous posais une question simple, mais dans la réponse est compliquée. Est-ce que la définition de l'Orient, est-ce que c'est une définition géographique? Alors, on pourrait dire en somme tout ce qui est à l'est de la Méditerranée, ou est-ce que c'est une définition intellectuelle, tout ce qui n'est pas européen, tout ce qui n'est pas chrétien? Enfin, en tout cas, comment on délimite l'Orient à l'époque de Louis XV et de Louis XVI?
Alors, bon, vous avez tout à fait raison, c'est une définition intellectuelle, ne serait-ce que parce que c'est une définition qui nous vient qui n'est pas produite par les orientaux, hein, qui est produite par les Européens. Alors, à l'époque de Louis XV, on ne parlait pas d'Orient, hein. L'Orient, c'est vraiment un concept qui n'apparaît qu'au XIXe siècle, et puis ensuite qui se subdivise en Moyen-Orient, Proche-Orient, au début du XXe siècle. On parle de Levant. Le Levant, ça désigne en fait, et j'ai repris cette terminologie-là, en partie pour délimiter l'espace géographique de mon livre, ça désigne une région du monde qui part de Constantinople au nord, qui va jusqu'en Égypte, jusqu'au Caire, et qui passe par ce qu'on appelle alors à l'époque les échelles du Levant, qui sont les ports qui commercent avec l'Europe, et qui sont des ports extrêmement cosmopolites. Donc parmi ces échelles, on retrouve Smyrne, et Izmir aujourd'hui. L'Anatolie fait partie du Levant, donc très clairement. Et puis on retrouve également plus au sud, Beyrouth, le Liban fait partie du Levant, la Syrie également, ainsi que la Terre Sainte. Donc c'était cet espace relativement, alors pour du point de vue français, relativement cohérent, puisqu'il permet une politique plutôt uniforme en matière commerciale et en matière également d'alliance avec l'Empire ottoman.
Et sur la question orientale aussi, est-ce que l'Algérie actuelle, parce qu'à l'époque c'est pas le terme qu'on emploie, mais est-ce que ça on l'inclut dans l'Orient? Et je pense évidemment à l'expédition qui a été menée ensuite par Charles X contre la régence d'Alger. Est-ce que c'est déjà à l'époque quelque chose qui est pensé, qui est intégré dans la dimension orientale?
Alors l'Algérie fait partie de l'Empire ottoman. L'Algérie fait partie de l'Empire ottoman, même si le dé d'Alger est dans une posture quand même d'autonomie par rapport au sultan ottoman. Par conséquent, l'Algérie est dans une situation un petit peu d'entre-deux, et encore aujourd'hui, lorsque ça varie beaucoup en fonction des auteurs qui travaillent sur la question d'Orient, mais certains peuvent même inclure le Maghreb dans la question d'Orient. Alors, à l'époque, vraiment, quand on désigne le Levant, c'est vraiment ce qui correspond à ce que les Arabes appellent le Mashrek, c'est-à-dire vraiment la partie orientale du bassin méditerranéen. Le Maghreb ne correspond pas au Levant. En plus, à partir de 1830, et c'est pour ça que je n'ai pas retenu l'Algérie dans mon livre, et a fortiori la Tunisie, et le Maroc, l'Algérie, finalement, l'histoire de l'Algérie se sépare quelque peu donc de celle de l'Empire ottoman. Les problématiques ne sont plus les mêmes, et elle rentre, l'histoire de l'Algérie rentre dans la problématique, une problématique plus large, qui est celle de l'histoire de la colonisation française. L'histoire de la colonisation française qui, finalement, hormis la période de 20 ans, une vingtaine d'années des mandats, ne concerne pas l'Orient ottoman et puis ensuite les États-nations qui en sont issus.
Alors il y a la Révolution française, et puis au sein de cette Révolution française, la fameuse expédition d'Égypte, Napoléon Bonaparte, 1798, on va y revenir. Et souvent, quand on parle d'expédition d'Égypte, on a en tête l'expédition militaire, et ça a eu un intérêt militaire important. Mais il y a aussi une dimension intellectuelle, dont un des exemples d'ailleurs est Champollion, la pierre de Rosette, etc. Quand Napoléon Bonaparte part, il s'entoure de nombreux scientifiques. Est-ce que la finalité de cette expédition, est-ce qu'elle est essentiellement militaire ou est-ce qu'elle est essentiellement scientifique?
Alors, elle est d'abord militaire. Le but, hein, c'est ce qui est défini d'ailleurs par Talleyrand, hein, en tant que ministre des Relations extérieures du Directoire. Le but premier de l'expédition d'Égypte, hein, c'est de couper la route des Indes aux Britanniques. Et il faut la concevoir, hein, cette expédition d'Égypte, donc en 1798 hein, à 1801, comme le prolongement des affrontements, des guerres qu'il y a alors en Europe entre la France républicaine et la coalition monarchique contre la France. Le problème, c'est que très rapidement, alors certes les Français s'emparent de l'Égypte, mais deviennent très rapidement prisonniers de leur conquête. Hein, à partir de la défaite navale d'Aboukir, hein, en août, le 1er août 1798, où la flotte française est anéantie en rade d'Aboukir par les Britanniques, les Français donc, ont la méprise de l'Égypte, mais ne peuvent plus rentrer, n'ont plus les moyens, hein, du moins provisoirement, de rentrer en France. Par conséquent, ils vont s'installer, mais cela va être extrêmement compliqué, puisque les Français, les Anglais, les Britanniques font le blocus le long des côtes, et malgré la campagne que mène Bonaparte en Syrie, la campagne que mène Bonaparte en Syrie va être un échec, et finalement, dans un premier temps, il va rentrer en France pour réaliser son fameux coup d'État du 18 Brumaire en 8, hein, en novembre 1799, et il va être suivi ensuite par les dernières troupes françaises hein, qui vont se rendre en 1801. Donc, d'un point de vue militaire, l'expédition d'Égypte est un échec. Par contre, c'est vrai, d'un point de vue scientifique, c'est une réussite, même si ce n'était pas forcément le but premier. Il y avait une commission scientifique hein, qui avait suivi l'armée de Bonaparte, qui était composée des meilleurs scientifiques hein, de leur temps, et cette commission scientifique va travailler hein, sur l'Égypte, alors va faire un état des lieux des connaissances sur cette région, sur ce pays, aussi bien sur son histoire, et notamment son histoire ancienne. Il va y avoir de nombreuses fouilles archéologiques à cette occasion. C'est à cette occasion-là, d'ailleurs, vous parliez de la pierre de Rosette, que la pierre de Rosette va être découverte. Et il va y avoir aussi toute une série d'études, alors aussi bien qui ont trait vraiment dans une perspective encyclopédique à toute une série de sujets, que ça peut aller de la botanique à la zoologie, en passant par la maîtrise des eaux, à l'hydrologie ou à l'ethnologie. Et tous ces travaux vont être consignés et synthétisés dans la description de l'Égypte, hein, qui est l'ouvrage donc maître de cette commission scientifique et qui est publié sous la Restauration, hein, plus d'une décennie après, après l'expédition, qui est publié d'ailleurs souvent sous forme à l'intérieur d'un meuble, hein, c'était des ouvrages assez imposants, hein, qu'on plaçait dans des meubles et qui étaient destinés bon, à l'élite aristocratique française. Et à travers cette description de l'Égypte notamment, les Français vont se familiariser avec l'égyptomanie et l'égyptologie. Et cette fascination pour les hiéroglyphes, qui va traverser ensuite le 19e siècle, hein, vient de ces travaux de la commission scientifique de l'expédition d'Égypte.
Alors Napoléon a quitté, enfin Bonaparte a quitté l'Égypte, mais est-ce que la France a eu la tentation ou a essayé de conquérir l'Égypte, où on a considéré que c'était anglais et que c'était leur chasse gardée, alors que l'Égypte a un intérêt stratégique et politique majeur?
Alors, il y a très clairement une tentative hein, lors de l'expédition d'Égypte, hein, déjà. Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord. Si vous voulez, certains comme Kléber dans l'entourage de Bonaparte estiment que la possession de l'Égypte ne peut être que provisoire. Il faut mettre ensuite, par la suite, un souverain allié aux Français, hein, puisque les Français n'auraient pas les moyens de rester en Égypte. D'autres, comme Menou, veulent au contraire une politique presque, on peut le dire, d'ordre colonial. Alors, cette tentation de s'emparer de l'Égypte, par la suite, elle n'est jamais réellement dite. L'influence se fait en fait par le biais de conseiller. Donc c'est pas vous voyez, une prise de position directe, hein, c'est pas indirectement par le biais de conseillers français qui se placent dans l'entourage du pacha d'Égypte, Mehmet Ali, hein, qui s'empare du pouvoir en 1805 et qui est le grand pacha modernisateur, hein, de l'Égypte dans la première moitié du 19e siècle. Et Mehmet Ali s'entoure de conseillers français, souvent d'ailleurs plutôt des saint-simoniens, des modernisateurs, hein, qui deviennent ses ministres, et qui créent des hôpitaux, font percer des canaux. Cette influence saint-simonienne se matérialise, bien sûr, par le percement du canal de Suez. Le canal de Suez, c'est une entreprise française. Sous l'égide d'abord des saint-simoniens, ensuite c'est Ferdinand de Lesseps, hein, qui reprend le projet, et en 1869, hein, lorsque le canal de Suez est inauguré, il y a une cérémonie lors de l'inauguration, et la vedette de la cérémonie, ce n'est rien d'autre que Eugénie, l'impératrice, qui est vraiment qui porte le Second Empire ici en Orient à son acmé. Donc cette influence, après l'expédition d'Égypte, même s'il y a toujours ce rêve du royaume arabe, elle ne reste finalement que sur le terrain culturel, économique, et néanmoins, malgré tout, il y a l'influence croissante des Britanniques qui va finir par avoir raison de cette influence française, puisque les Britanniques vont finir par noyauter la compagnie du canal de Suez jusqu'à ce qu'ils annexent, hein, en quelque sorte l'Égypte en 1882.
Alors vous évoquez la question culturelle, c'est évidemment important dans les rapports avec l'Orient. On pense notamment au rôle joué par un peintre comme Delacroix, un écrivain comme Chateaubriand et son voyage à Jérusalem. On voit qu'il y a une véritable prise en main par le milieu culturel de la question orientale. Ils inventent d'ailleurs une forme d'Orient, ce que certains auteurs ont parlé d'orientalisme. En tout cas, si on a une vision de l'Orient aujourd'hui, c'est en partie grâce à cette image qui a été renvoyée par les artistes.
Oui, tout à fait. C'est cette image, hein, très romantique, hein, qui naît à cette époque-là, alors qui vient de récits de voyage, hein, vous avez évoqué Chateaubriand, ils sont en itinéraire de Paris à Jérusalem, hein, qui montre une description, hein, de la Terre Sainte. On peut penser également, hein, tous les grands écrivains de l'époque, hein, se rendent dans l'Empire ottoman. On peut penser à Lamartine, à Flaubert, à Nerval. Cette vision en grande partie fantasmée, hein, comme l'a montré Édouard Saïd, hein, en grande partie fantasmée, est présente également dans la peinture. Dans la peinture, à travers les tableaux d'Eugène Delacroix, alors tableaux lors de la guerre d'indépendance grecque, qui montrent ce qui serait la cruauté des Turcs qui massacreraient les Grecs. Tableaux également qui montrent très souvent chez des peintres comme Ingres, comme Chassériau, une vision idéalisée de l'Orient. Des femmes dans des harems, par exemple, qui sont souvent d'ailleurs des femmes européennes et non pas orientales. On retrouve également des motifs dans cette peinture orientaliste, comme les dresseurs de serpents. Il y a toute une série de thèmes sociaux qui sont ici drainés. Ce qu'on observe progressivement au cours du 19e siècle, c'est qu'il y a un relatif désenchantement dans ce traitement à la fois littéraire et artistique de l'Orient. Un désenchantement qui est lié à la modernisation et à l'occidentalisation de l'Empire ottoman. Et un des meilleurs témoins de ce basculement, c'est Pierre Loti. Pierre Loti qui écrit en 1879, hein, Asiadé, hein, qui est l'un de ses romans phares, qui raconte l'histoire d'amour qu'il a eue avec une jeune circassienne. Et Pierre Loti est absolument déprimé devant ce qu'il voit à Constantinople, c'est-à-dire un quartier au nord de la Corne d'Or, hein, le quartier de Perra, qui est un quartier en fait européen, qui ressemble à ce, au quartier des grandes capitales européennes, hein, percées de grands boulevards. Et Pierre Loti cherche à se réfugier dans la ville turque, hein, Istanbul, au sud de la Corne d'Or, avec ses ruelles, ses petites places, hein, ses échoppes, pour échapper à ce qu'il considère, hein, comme une désespérante européanisation de l'Orient. Donc à partir de Pierre Loti, hein, cet orientalisme, qui était vraiment un orientalisme onirique, devient de plus en plus un orientalisme désenchanté. Paradoxalement, cet orientalisme désenchanté se fait par le biais de l'européanisation de l'Empire ottoman.
Dernière question, Jean-François Figeac, sur la monarchie de Juillet. La question orientale a été une question extrêmement importante. Alors, il y a la conquête de la partie algérienne, et d'abord la côte, et puis après un peu l'intérieur, mais à la Chambre aussi, que ce soit Guizot, Thiers, ça a été un enjeu politique majeur, et notamment la question syrienne. On voit là que c'est aussi un élément d'affrontement entre la France et la Grande-Bretagne. Alors, vous évoquiez en début d'émission l'affrontement entre l'Empire ottoman et la Russie, mais ces deux grandes puissances européennes, France et Grande-Bretagne, trouvent aussi en Orient un point d'achoppement.
Oui, c'est autour de cette question de la Syrie, parce que Mehmet Ali, qui est donc allié à la France, s'est emparé de la Syrie au début de la décennie 1830 et menace très clairement Constantinople. Certains en France estiment même que, du fait des amitiés qu'il y a entre la France et Mehmet Ali, peut-être qu'il serait pertinent de remplacer le sultan ottoman par Mehmet Ali à Constantinople. Et les Britanniques s'opposent à cela, parce que les Britanniques estiment que finalement un Mehmet Ali puissant en Orient, hein, avec qui aurait jusqu'à remplacer le sultan ottoman, jouerait le jeu de la France, mais pas celui des Britanniques, et couperait ainsi la route des Indes. Et en effet, en 1840, hein, il y a une très grave crise, puisque Mehmet Ali a repris la guerre contre le sultan ottoman. Son fils Ibrahim Pacha est quasiment aux portes de Constantinople, et c'est à ce moment-là que les Britanniques signent avec les autres puissances européennes, à l'insu de la France, hein, en catimini, le traité de Londres, qui entraîne, qui impose à Mehmet Ali de retirer ses troupes de Syrie et à revenir en Égypte. Ce traité entraîne une vague d'anglophobie très forte en France, hein, et de patriotisme, vague de patriotisme qu'on retrouve également outre-Manche, qui est en partie attisée par le pouvoir en place. C'est-à-dire que, par exemple, Thiers, qui est alors président du Conseil, Adolphe Thiers, et qui cherche à retrouver un semblant de popularité, attise cette vague nationaliste qui, finalement, va être un petit peu tué dans l'œuf, puisque Louis-Philippe, qui lui est favorable à une alliance avec les Britanniques, va remplacer Thiers par Guizot, qui lui est beaucoup plus favorable à le maintien de cette alliance en tout en garantissant un certain nombre, en offrant un certain nombre de garanties à Mehmet Ali, mais qui ne vont pas jusqu'à la prise de possession de la Syrie.
Merci beaucoup Jean-François Figeac d'avoir évoqué ces rapports entre la France et l'Orient du 18e au 19e siècle. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Passé Composé, La France et l'Orient de Louis XV à Emmanuel Macron. Et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. On va poursuivre l'histoire et aborder le 20e siècle où évidemment ce sujet est fondamental et ô combien important pour la France. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.